France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
L'affaire Epstein continue de secouer les États-Unis. Voilà des années que ce scandale pédocriminel parasite la politique américaine et suscite les fantasmes les plus fous. Si les faits de proxénétisme et de pédocriminalité dont était accusé Jeffrey Epstein sont bel et bien avérés, son suicide en prison en 2019 a déclenché une ère du soupçon qui continue de faire tanguer Washington. Politique, homme d'affaires, star, tous les puissants se trouvent soupçonnés désormais d'avoir participé ou protéger les faits criminels de Epstein, alors qu'une loi vient d'être promulguée pour révéler toute la teneur de et des Epstein Files. Leur existence, elle, reste encore à prouver. Mais que dit ce scandale du complotisme états-unien et de la place que prend la sexualité dans la défiance à l'égard des dirigeants? Pour nous éclairer ce soir, un politologue, Julien Giry. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur à l'université de Tours. Merci d'être avec nous ce soir dans Question du soir. Et je le disais, le Sénat américain a approuvé mardi à l'unanimité une proposition de loi visant à forcer les autorités à rendre publics les dossiers en leur possession sur l'affaire du criminel sexuel Jeffrey Epstein. Quelques heures après son adoption à la Chambre des représentants, comment est-ce que vous analysez, Julien Giry, cet unanimisme soudain presque de la classe politique américaine au sujet de cette affaire ?
Oui, comme vous le disiez, effectivement, c'est l'unanimisme soudain qui est peut-être assez intéressant aussi. Mais ça fait partie un petit peu de cette histoire, cette tradition américaine de déclassification après plusieurs années des affaires, en tout cas, comme on a pu le voir pour Kennedy, etc. Mais c'est vrai que dans le contexte actuel, on a surtout l'impression qu'une frange républicaine qui a été un peu ébranlée par les atermoiements de Trump, les allers-retours entre son discours de campagne sur « nous allons tout révéler, nous avons les listes, nous avons tous les documents », et finalement, en fait, il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien, Pam Bondi, Cash Patel, etc., qui ont annoncé ces événements qui n'avaient rien. Et là, on a l'impression qu'il y a une sorte de panique un petit peu au sein des Républicains, une volonté de reprendre la main en disant « finalement, on va tout ouvrir, on va tout déclassifier, on va jouer la transparence maximale, en quelque sorte ».
Alors Trump lui-même a promulgué cette loi mercredi, bien qu'il ait été très longtemps opposé à l'adoption de ce texte. Là aussi, comment est-ce que vous analysez ce revirement du président américain ? Est-ce qu'il y a été contraint par les élus américains ou contraint bien plus encore par sa base, les MAGA ?
Exactement, c'est ça. C'est davantage une certaine frange de la base MAGA qui le pousse effectivement à aller plus loin, à respecter un petit peu ce qui était ses promesses de campagne, dans la mesure où il avait dit, redit, fait dire par ses soutiens, etc., que de toute manière, sur Epstein, il ferait toute la transparence, qu'il n'avait rien à cacher. Et on a bien vu, dans les développements ensuite, après son élection, que lui-même a été impliqué là-dedans. Et c'est une sorte de prise en étau de Trump entre différentes factions de sa base MAGA, entre ceux qui ont commencé à se demander si finalement Trump n'était pas lui-même un des agents finalement de cette espèce de système Epstein, et une partie de sa base beaucoup plus radicale qui était à dire « mais qu'est-ce qui se passe ? Allons-y, révélons tout ». Et donc effectivement, Trump s'est en fait trouvé un peu, pris dans une sorte de contradiction interne qui l'oblige un petit peu à louvoyer et à aller au gré de qui est le plus radical et qui annonce, et notamment dans l'optique finalement des élections qui vont arriver demi-mandat dans quelques mois.
Je voudrais vous faire entendre une voix, celle de l'éditorialiste ultra-conservateur Tucker Carlson. Il s'exprimait justement au sujet de cette affaire.
Nous sommes tous capables de tout, mais je ne comprends pas ce délire sur les filles mineures. Je ne comprends pas, ce sont des enfants. Peut-être que j'ai trop d'enfants moi-même, mais je dois être honnête. Je ne comprends pas. Je ne vois aucune attirance du tout. Et l'explication conventionnelle, et peut-être que je suis trop directe, mais ce n'est pas une question de sexe, c'est spirituel. Et cet ami m'a dit, c'est l'excitation de détruire l'innocence, voilà ce que c'est. Et c'est la définition même du mal. Peut-être que vous aviez déjà pensé à ça, mais moi pas. Ce n'est pas juste une attirance sexuelle du genre, oh, qu'est-ce que les filles avec des appareils dentaires sont sexy. Personne ne pense ça, c'est juste étrange. Leur désir, c'est juste du sacrifice d'enfant, c'est détruire quelque chose de pur.
On a le sentiment, en écoutant cet homme d'extrême droite, que tous les hommes publics, tous les responsables politiques sont obligés d'en faire des tonnes, si je puis dire, pour prendre ses distances avec ce conflit. Je redonne même les mots employés par Tucker Carlson. Ce n'est pas une question de sexe, c'est spirituel, c'est la définition même du mal. C'est du sacrifice d'enfant. Comment est-ce que vous analysez ces termes, ce registre-là, Julien Giry?
Ce registre-là, il est finalement assez classique. Disons les choses de façon très claire. D'abord, effectivement, la lutte contre la pédocriminalité est une cause évidemment légitime, évidemment juste. Et qu'est-ce qu'il y a de pire que de faire du mal à des enfants, en particulier sur ce type de registre sexuel? Ça, c'est tout à fait évident. Mais on est là-dedans dans quelque chose aussi qui est très intéressant, puisqu'on parlait de toutes ces... On n'a peut-être pas encore parlé, mais on va en parler peut-être, de toutes ces questions qui sont liées aux théories du complot autour de la mort d'Epstein. Et la question de la pédocriminalité dans les thèses conspirationnistes, en tout cas de la défiance sexuelle extrême, que ce soit de la zoophilie, de la pédocriminalité, éventuellement du meurtre d'enfants, etc., c'est quelque chose qui est extrêmement structurant, dans la mesure où si le comploteur ou le complotiste, enfin celui qui est supposé être l'architecte du complot, est capable de tels expédients, de tels extrêmes, faire du mal à des enfants innocents, justement, comme c'était dit en extrait, il est capable de tout. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve très régulièrement dans ce type de théorie. Et là, en voulant se démarquer d'Epstein, on est vraiment là-dedans. Et encore une fois, vous l'avez dit en introduction, il y a des faits vraiment avérés pour le cas Epstein. Donc c'est pas simplement une sorte de fantasme ou de vue de l'esprit, hein, clairement.
Alors parlons, avant de parler de fantasme, de vue de l'esprit, de complot, parlons justement de ce qui est avéré, des faits, de les raisons pour lesquelles Epstein est mise en cause, a été mise en cause. Rappelez-nous, j'allais dire, ces forfaits.
Mais Epstein, c'est une affaire assez ancienne finalement. Dans les années 2000, il y a déjà des affaires. Il y a des qu'on appelle aux États-Unis des tractations avec le procureur, des transactions où des plaintes ont été retirées. C'est pas quelque chose qui a arrivé au début des années 2010, 2015, 2016, etc. Non, c'est quelque chose d'assez ancien. Epstein est effectivement, avec sa comparse Ghislaine Maxwell, qui est actuellement en prison, ce sont des gens qui ont effectivement organisé du trafic de jeunes filles mineures, clairement pour assouvir les fins sexuelles de ce monsieur et visiblement d'une certaine, comment dirais-je, intelligentsia américaine qui a participé à cette soirée, assez partie fine, hein, pour le dire avec des mots assez légers. Mais on est vraiment là-dedans. Donc oui, effectivement, Epstein est quelqu'un qui est effectivement un pédocriminel au sens propre du terme. Et je crois qu'il faut le dire de façon assez forte et, par-delà, a organisé un réseau pédocriminel.
Comment est-ce que le suicide d'Epstein en prison a bouleversé la donne, notamment a transformé le rapport aux faits et a alimenté d'une manière absolument considérable les théories du complot?
En fait, vous l'avez dit en introduction vous-même, vous avez le super cocktail pour du conspirationnisme, des puissants, de l'argent, du sexe, la politique, le cinéma, le showbiz, etc. Et une mort, pour le coup, assez effectivement prenante. Ce jour-là, les gardiens ne sont pas passés. Les caméras de surveillance étaient en panne, comme par hasard, j'ai presque envie de vous dire. Donc vous avez tout un tas d'ingrédients, un environnement qui va nécessairement, et encore plus aux États-Unis où la culture du complot est extrêmement, extrêmement structurante dans la société, va nécessairement alimenter l'ère du soupçon, ou en tout cas l'idée de soupçon, on va dire comment c'est possible, c'est trop gros, c'est pas possible, c'était inattendu. Tout ça fait qu'en fait vous avez tout ce qu'il faut pour nourrir l'imaginaire conspirationniste.
Alors expliquez-nous comment cette ère du soupçon, hein, c'est votre expression, en vient à porter une ombre sur Donald Trump lui-même, lui qui a expliqué durant tant d'années qu'il connaissait peu ou prou pas très très bien Epstein, que dans le fond c'est quelqu'un qu'il avait croisé à plusieurs reprises, mais que ses liens étaient distendus, que le temps les avait plus encore distendus. Bref, comment Observe-t-on aujourd'hui un retour de bâton dans ce domaine ?
Le retour de bâton, comme vous le dites, il est effectivement les photos qui ont circulé. Cette photo, simplement, d'Epstein avec Trump, d'abord a alimenté l'idée d'une certaine collusion, une certaine connivence entre toutes ces élites, finalement, très déconnectées du peuple, qui serait une sorte de vase clos où tout le monde, circule de manière assez interlope là-dedans. Et vous avez vu récemment, ensuite, après la non-révélation, en tout cas la non-communication de la prétendue liste des clients d'Epstein, on a vu ressortir des dessins de Trump, assez obscène et scabreux, pour le dire directement, qui était adressé à son ami Jeffrey. Donc tout ça montre qu'il y a une certaine connexion entre le président américain et alimente l'idée que finalement, si Trump a changé de position, tous ces revirements de Trump alimentent l'idée selon laquelle, finalement, peut-être que cette fameuse liste des clients aurait contenu un client qui s'appellerait Donald Trump, et donc c'était très dérangeant de le dire, et donc Trump, son administration, Cash Patel, pas Mondi, etc., aurait organisé une sorte de conspiration du silence pour étouffer l'affaire.
Les Epstein Files existent-ils seulement ? Ou est-ce que là aussi c'est une vaste rumeur défendue par certains ?
Excellente question. Dans sa campagne, Trump, et comme je disais tout à l'heure, Cash Patel et Pam Bondi, ont dit qu'ils les avaient. Ils ont dit « nous les avons, nous allons les révéler pendant la campagne ». On verra. La décision du Congrès, la loi qui a été votée par le Congrès, je dis sur la déclassification des documents, nous donnera une réponse. On ne sait pas. Pour le coup, vraiment, on ne sait pas.
Qu'est-ce qui provoque le soupçon fondamental, selon vous, d'une partie de l'opinion américaine sur ce sujet, sur cette vague, j'allais dire, même de rumeurs ? Est-ce que c'est la réticence des autorités à faire fondamentalement la transparence et donc, à ce moment-là, les Epstein Files viendraient résoudre en partie le problème ? Ou bien c'est un mépris, une défiance même plus large et plus profonde des élites politiques américaines ?
Alors, il y a deux éléments de réponse. Effectivement, le conspirationnisme et la défiance à l'égard des élites aux États-Unis, elle est extrêmement ancienne, extrêmement profonde. J'allais dire, elle est même quasiment consubstantielle à la fondation des États-Unis, à la manière dont les États-Unis se sont pensés institutionnellement, démocratiquement, en tant que division du pouvoir, en tant qu'opposition à la couronne britannique à l'époque de la Révolution, en tant que pays qui s'est fondé aussi sur un pays sans institutions, au niveau que la conquête vers l'Ouest, l'expansion vers l'Ouest était dévastée, les fameuses frontières à l'Ouest, etc. Mais il y a aussi quelque chose de très conjoncturel, j'allais dire, dans le sens où Trump a été celui qui a porté la défiance aussi extrêmement forte, extrêmement puissamment. Alors c'est pas le premier, c'est pas le dernier sans doute, mais c'est un peu le retour du bâton, comme vous disiez tout à l'heure. Il y a vraiment ça, il y a une espèce de conjonction entre un élément culturel, politique, sociologique, politique et fondamental d'une histoire et une culture politique et populaire du complot aux États-Unis qui est extrêmement ancré, et un moment particulier où cette culture politique vient s'incarner dans une figure particulière, comme ça a été Epstein il y a quelques années ou en ce moment, comme c'était le Pizzagate il y a 10 ans, comme ça a pu être les Tea Party il y a 15 ans, comme ça a pu être le McCarthyisme il y a 50 ou 60 ans.
Vous parliez du Pizzagate. Alors à ce sujet, je voudrais vous faire entendre la voix de Jim Margolis, le conseiller en communication d'Hillary Clinton. Il s'exprime au sujet de cette affaire, le Pizzagate, qui date déjà un peu, mais vous allez nous expliquer de quoi il s'agissait, Julien Giry.
Quand j'ai entendu parler du Pizzagate pour la première fois, j'étais au quartier général d'Hillary à Brooklyn. Et au début, je ne comprenais même pas de quoi il s'agissait. Quelqu'un m'expliquait de quoi on l'accusait, me racontait les rumeurs selon lesquelles il y avait des enfants esclaves sexuels dans la cave. Franchement, j'ai cru que c'était une blague. J'ai répondu, mais de quoi tu parles là ? Dans ce pays, il y a aujourd'hui des gens qui sont tellement destructeurs, qui vendent des mensonges, déforment la réalité et font cela pour leur propre profit ou pour servir leur intérêt politique, alors qu'il n'y a aucun fait tangible. Et en la matière, on peut dire qu'Alex Jones est le pire d'entre eux.
Là, Julien Giry, contrairement d'ailleurs au cas Epstein, rien n'est avéré dans le Pizzagate. On est dans la rumeur la plus folle, la plus complète. Expliquez-nous, rappelez-nous de quoi il s'agit.
Alors, le Pizzagate, c'est un scandale qui éclate en 2016, pendant la campagne. Et l'idée selon laquelle un restaurant de pizzeria à New York serait en fait une espèce de base ou de succursale au sein de laquelle s'est organisé une sorte de trafic d'enfants pour des élites démocrates, notamment Hillary et Bill Clinton, John Podesta, etc., qui étaient directeurs de campagne d'Hillary Clinton à l'époque. Et ce serait l'endroit où ces élites démocrates se livraient à tout un tas de sévices hein, sur des enfants, avec des mots codés, par exemple, « Comme-moi une pizza au fromage », qui aurait voulu dire « Je veux 3 enfants, 4 enfants », etc. Donc on est vraiment dans l'idée d'une espèce d'élite pédosataniste hein, qu'on va retrouver et qui est même plus ancienne aux États-Unis. On pourra en discuter si vous voulez. Mais cette idée que les démocrates seraient tellement corrompus moralement qu'ils auraient recours à des viols d'enfants, des sacrifices rituels, etc. Mais au-delà de l'anecdote un peu fantasmagorique, ça a quand même donné lieu à une descente d'un homme qui s'appelait Robert Welch avec un fusil qui a quand même tiré dans cette pizzeria. Le monsieur a voulu venir enquêter lui-même pour voir s'il n'y avait pas effectivement des enfants dans la cave. Donc on est quand même au-delà simplement du truc fantasmagorique, ça s'est traduit dans le réel et dans l'extrait. On parlait d'Alex Jones. Alex Jones est effectivement une des figures majeures du conspirationnisme aux États-Unis et lui-même a largement instrumentalisé ce type de théorie, comme il avait pu le faire sur les massacres de Sandy Hook, en expliquant que les enfants qui avaient été tués en école, les gens qui avaient été tués en école, tout ça a été faux, c'était des acteurs, tout a été staged, comme on dit aux États-Unis, donc une mise en scène.
Ce fantasme de l'élite pédosataniste, ce fantasme-là, comment s'enracine-t-il dans l'histoire politique des États-Unis, Julien Giry ?
Alors c'est quelque chose qui est extrêmement plus largement qu'aux États-Unis, j'allais dire dans l'imaginaire complotiste, après je reviendrai aux États-Unis après si vous voulez bien, c'est quelque chose d'extrêmement structurant. Attribuer aux conspirateurs présumés des déviances sexuelles, c'est quelque chose qui fait partie, j'allais dire, des ingrédients classiques du conspirationnisme en tant que système de pensée. Si finalement votre ennemi présumé est capable de faire tellement de mal à des enfants ou à des comportements aussi immoraux, par exemple, dès le XIIe siècle, on retrouve l'idée que les Templiers auraient des comportements sexuels extrêmement déviants. À l'époque, c'est simplement de la masturbation, de l'homosexualité. On imagine bien qu'aujourd'hui, ce type de comportement ne prête pas à réprobation morale, en tout cas, j'allais dire, dans la majorité du public. Mais après la Seconde Guerre mondiale, en tout cas après les années 50-60, on a vu une sorte d'inflation de ce côté-là. Aux États-Unis, notamment, dans les années 80-90, on accusait Ronald Reagan d'être un sodomite, Ronald Reagan de pratiquer la zoophilie, etc. Et en 1995, vous avez un livre qui est publié, qui s'appelle Transformation of America par Cathy O'Brien, qui explique elle-même avoir été, avec sa fille de 8 ans, l'esclave sexuelle des présidents Gerald Ford, de Ronald Reagan, de Bill Clinton, etc., etc., et de tout un tas d'élites américaines qui sont tout à fait connues aux États-Unis. Dès les années 70 également, vous avez cette espèce d'idée du complot pédocriminel qui existe, qui serait lui-même incarné dans la musique rock, par exemple, si on jouait, paraît-il, de façon inversée les morceaux de Led Zeppelin, on entendait l'apologie du diable, l'apologie de Satan, l'apologie de la pédocriminalité, le tout promu par des télé-évangélistes extrêmement, extrêmement connus et puissants aux États-Unis. C'est quelque chose que nous, on a du mal à maîtriser, ou en tout cas à réaliser en Europe, l'importance de ces télévisions ou de ces radios, surtout de ces radios télé-évangéliques, qui sont extrêmement, extrêmement proactives pour promouvoir et dénoncer l'idée qu'il existe un complot pédosataniste à l'échelle mondiale.
J'en reviens, Julien Giry, à Donald Trump et à la vague de rumeurs à laquelle il est présentement confronté, de rumeurs pour l'instant du moins. Quelle stratégie adopte-t-il pour y faire face ? Et tout simplement, a-t-on les moyens de faire face à une rumeur comme celle-ci lorsqu'on est président des États-Unis ?
Mais c'est très difficile pour Trump, comme on le disait tout à l'heure, il est pris dans une sorte d'étau entre celui qui finalement s'est présenté, ou en tout cas s'est laissé peut-être présenter comme le champion ou le champion putatif de certaines Amériques blanches, une Amérique restaurée, une Amérique qui retrouvera sa grandeur, une Amérique pure en quelque sorte, la vraie America, make America great again, c'est vraiment le slogan. Et là il se retrouve pris finalement à son propre piège, celui de ses peut-être mensonges dans l'affaire Epstein, celui de ses déclarations dont on se souvient par exemple déjà en 2016 sur les femmes, I grab them by the pussy, ou alors des choses assez délirantes du style je pourrais prendre une arme et tuer les gens à la 5ème avenue, on continuerait à voter pour moi. Trump, il est vraiment pris là-dedans, il est pris en ses contradiction interne dans ce qu'il veut incarner et finalement ce qu'il est aussi. C'est ça qui est très difficile, le tout en accusant tout le monde de fake news à chaque fois qu'on dit quelque chose contre lui.
Les démocrates aussi sont pris en partie dans ce piège. Un seul exemple, Larry Summers, ministre américain des Finances sous Bill Clinton. Il était devenu président de l'université Harvard au mi-temps des années 2000. Il a été contraint d'annoncer lundi son retrait de la vie politique après la publication de sa correspondance électronique avec le criminel Jeffrey Epstein. Comment, là aussi, les démocrates voient leur réputation ternie par cette suite de scandales? Là, on n'est plus tellement dans la rumeur, mais dans le fait bel et bien avéré. C'est une preuve qui a été rendue publique.
Mais absolument, et ça donne un peu cette image si assez délétère d'une espèce d'élite comme ça, interlope, qui finalement, démocrate ou républicain, ça ne change pas grand-chose. On pourrait d'ailleurs rappeler à ce titre que Trump lui-même, dans les années 90, était davantage proche du parti démocrate que du parti républicain. Donc on est vraiment en cette espèce de monde un petit peu comme ça, qui semble très, très mystérieux, très éloigné, et sans doute à juste titre, des élites politiques, des élites du cinéma, des élites de la finance. C'est quelque chose de très américain, en fait, ce que dans les travaux de sciences politiques, on appelle de power elite aux États-Unis. On est vraiment là-dedans, effectivement. Tout ça alimente aussi cette espèce de soupçon ou de prénotion, en tout cas, ou qu'il pourrait exister, finalement, une sorte de solidarité entre élites, et que, de toute façon, quel que soit leur engagement, quoi qu'il soit, ils se soutiennent tous entre eux, ce sont tous les mêmes, et finalement, il ne leur arrive jamais rien. C'est un peu cette idée-là qui est un peu sous-jacente là-dedans.
Est-ce qu'il vous semble, Julien Giry, qu'en France également, la sexualité soit un prisme particulier pour alimenter, nourrir les complots à l'égard de la sphère politique, médiatique et également cinématographique?
Alors oui, on pourrait prendre des exemples assez anciens. J'imagine que vos auditeurs les plus sagaces connaissent l'affaire Markovitch des années 60-70 avec la mort de ce monsieur qui était garde du corps d'Alain Delon et qui a également été assez proche, enfin en tout cas réputé proche de la famille Pompidou à l'époque au pouvoir, où on explique que les Pompidou participent à des parties fines qu'on appelle ballets roses à l'époque, avec le monde du showbiz, avec le monde de la culture, etc. Donc c'est quelque chose qui est effectivement assez classique. On pourrait également rappeler d'autres affaires peut-être plus récentes, sur les plans chronologiques. L'affaire Dominique Baudis dans les années 90, qui est maire de Toulouse, ancien président du CSA à l'époque en France, et qui est accusé par le criminel, tueur en série Patrice Allègre, de fréquenter des prostituées, d'être à la tête d'un réseau pédocriminel, etc. Et tout ça alimente tout un tas de fantasmes sur les élites pédocriminelles, avec parfois des cas, entre guillemets, avérés de déviance ou d'agression sexuelle causée par des élites politiques. On pense par exemple à l'affaire Strauss-Kahn, qui vont, entre guillemets, donner du grain à moudre et alimenter l'imaginaire complotiste. On peut dire, si Strauss-Kahn, par exemple, a fait ça, peut-être que si on cherchait davantage, eh bien, on trouverait d'autres affaires exactement aux États-Unis, comme l'affaire Monica Lewinsky avec Bill Clinton. Bill Clinton a fait ça, mais alors peut-être que si on essayait de creuser davantage, on trouverait d'autres choses. C'est ce que j'appelle, moi, des précédents légitimes parce qu'avérés, et légitimement dans l'imaginaire complotiste, dans la mesure où ils permettent de donner du grain à moudre, ou en tout cas d'apporter de l'eau au moulin, de la vision globale qui serait que de toute façon toutes nos élites sont pourries et corrompues, en particulier sur le plan sexuel.
Est-ce que les rumeurs qui visent par ailleurs Michelle Obama, Brigitte Macron sur leur transsexualité, ce sont évidemment des rumeurs absolument infondées qui visent des femmes, qui visent avec une forme de transphobie, les dégrader aussi de la sorte. Est-ce que vous mettez cela, j'allais dire, dans le même panier que ce dont on vient de parler? En quelques mots, Julien Giry.
Alors, très rapidement, je dirais pas tout à fait, dans la mesure où là, vous n'êtes pas sur des accusations de scandale pédocriminel. On n'est pas sur vous avez des enfants, etc. Vous êtes surtout sur des gens qui sont accusés de dissimuler une véritable identité. Mais effectivement, cette transphobie, elle est tout à fait ambiante et on la voit très clairement aujourd'hui. Alors, il y a d'une part ça, mais il y a aussi une façon d'atteindre quelque part leur mari, les hommes politiques qui sont au pouvoir, qui sont des hommes puissants. Et on est plus là-dedans, à la fois dans une forme de caricature, de dénonciation, à la fois sociopolitique, etc., mais très ancienne, de la figure du pouvoir en le dévirilisant. Si finalement Emmanuel Macron est marié à un homme, c'est qu'il n'est pas tout à fait un homme lui-même non plus, puisqu'il est homosexuel. Et puis il ne faut pas oublier non plus la question instrumentale de toutes ces théories dans les cas des mobilisations sociales, où on va dire, par exemple, excusez-moi la vulgarité, mais la bite à Brigitte, ça va faire rigoler, ça fera une bonne affiche, et puis finalement, ça sera pas plus que ça. Donc il faut vraiment être là-dessus très prudent dans les usages qui sont faits, sur est-ce que les gens y adhèrent vraiment, est-ce que c'est plutôt une forme de satire, est-ce que c'est plutôt une forme de moquerie, etc. Il faut être très très prudent sur les usages qui sont faits, ce type de théories, de rumeurs, entre guillemets, évidemment, infondées, comme vous le disiez.
C'est pas plus que ça, et dans le même temps, ce sont des rumeurs qui ont des effets concrets sur les gens et les corps qu'elles visent. Merci beaucoup, Julien Giry. Vous êtes politologue, chercheur à l'Université de Tours. Merci pour ces explications limpides, et merci par ailleurs à celles et ceux qui ont pensé, imaginé et fait cette émission avec moi, Bruno Barada, Rodier Ken, Bertie Bourdon, à la réalisation, ce soir comme chaque soir, Léa Racine.